Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Une menace systémique des valeurs de l'Union européenne. C'est ainsi que le Parlement à Strasbourg a justifié tout à l'heure son vote contre la Hongrie. Un vote qui ouvre la voie à l'activation de l'article 7 et qui pourrait bien entraîner des sanctions contre le pays dirigé par Viktor Orban. La Hongrie est notamment accusée de remettre en cause la question du droit d'asile. Le pays a adopté une attitude très dure envers les migrants et ceux qui leur viennent en aide. Une clôture très surveillée le sépare désormais de la Serbie. Même ceux qui souhaitent entrer légalement ne sont pas les bienvenus. Parqués dans des camps au sud du pays, les demandeurs d'asile font face à un mur juridique et sont parfois privés de nourriture. Impossible d'ailleurs d'entrer dans ces camps quand on est journaliste. Florence Labruyère, elle, a pu se rendre de l'autre côté de la frontière, en Serbie, où ont échoué les réfugiés les plus vulnérables, des familles, des malades, des handicapés qui n'ont d'autre choix que de demander l'asile à la Hongrie.
Le paysage de champs et de bosquets est coupé par un double grillage de 4 mètres de haut. Il sépare la Hongrie de la Serbie. Entre les deux grillages, couronnés de barbelés, une route où patrouillent les forces de l'ordre hongroises. Une policière nous emmène dans sa voiture.
Il y a un petit bout de la rivière qui sert de frontière. Des clandestins passent par là, sur des bateaux pneumatiques. Mais il y a aussi beaucoup d'oiseaux qui se posent sur la clôture. Ils n'arrêtent pas de déclencher l'alarme.
Attention, attention. I'm warning you that you're at the Hungarian border.
Dès qu'une personne ou un oiseau frôle le grillage, des haut-parleurs diffusent un message en plusieurs langues. Attention, si vous vandalisez la clôture ou si vous essayez de la franchir, vous commettrez un crime. L'effet dissuasif est indéniable, selon David Varga, membre d'une association caritative basée en Serbie.
Il y a de moins en moins de réfugiés dans le nord de la Serbie, à cause de la clôture, tout simplement. La frontière est verrouillée, c'est presque impossible de la franchir.
Direction la ville de Subotica, en Serbie, à une douzaine de kilomètres de la frontière hongroise. À la sortie de la ville, un camp de réfugiés. Des vêtements d'enfants sèchent sur une barrière, devant une quinzaine de containers entourés d'arbres. C'est ici qu'ont échoué les plus vulnérables, les familles, les malades, les handicapés. Incapables d'aller plus loin, ils ont décidé de demander l'asile en Hongrie. Mais ils doivent attendre en Serbie pendant des mois. En théorie, le gouvernement hongrois laisse entrer 2 personnes par jour. Mais en pratique, c'est une autre histoire, comme l'explique une responsable du camp de Subotica.
En ce moment, on a seulement 53 personnes ici. Ce sont surtout des familles qui viennent d'Afghanistan, d'Irak et d'Iran. La semaine dernière, les Hongrois n'ont laissé entrer personne. Tout dépend de leur bon vouloir. On attend qu'ils nous disent s'ils acceptent des gens ou pas.
Dans sa ville natale de Bagdad, Farol Marwan était représentante pour la société de cosmétiques L'Oréal. Cela fait 1 an et demi que cette jeune femme de 28 ans est en Serbie avec son mari.
On est parti d'Irak à pied. Une belle lune de miel. On est allé de Turquie en Grèce, en bateau, et on a marché jusqu'en Serbie. J'étais enceinte, c'était idéal. On a essayé 5 fois d'entrer en Europe, pas par la Hongrie, mais par la Roumanie. On s'est fait refouler par la police roumaine. Ils nous disaient retourner en Serbie.
En Serbie, Farol a accouché d'un petit Joseph qui a aujourd'hui 1 an. Mais impossible de passer la frontière illégalement avec un bébé. Alors la jeune femme et son mari se sont résignés à demander l'asile à la Hongrie, même si la procédure est longue.
Tout ça nous a pris 1 an et demi. Mais on est enfin numéro 1 sur la liste d'attente. On va voir comment ça se passe en Hongrie. Après, je ne sais pas. J'aimerais aller en Suisse. Tout le monde dit que c'est bien, qu'il y a du travail. On paye bien. Alors j'ai pensé à la Suisse.
Khotul est une jeune femme toute menue de 19 ans. Elle est venue d'Afghanistan avec ses parents. Tous les trois sont épuisés.
Mes parents sont très malades. Mon père est cardiaque et ma mère a des problèmes psychiques. Ils prennent des médicaments. Et moi aussi. Vous savez, on a eu des problèmes avec les passeurs. Il n'y avait pas d'hommes avec nous pour nous protéger, alors c'était très difficile pour moi. Les passeurs nous ont battus et après ils nous ont abandonnés dans la forêt. On est fatigués des passeurs. C'est pas des gens bien.
À quelques kilomètres de là, cachés dans une ferme en ruine, une quinzaine de jeunes Pakistanais, Afghans et Iraniens. Ils préparent à déjeuner, du riz avec des pommes de terre. Des ONG leur apportent des provisions. Ces jeunes savent qu'ils n'ont aucune chance d'être admis comme demandeurs d'asile en Hongrie. Alors ils essayent régulièrement de passer la frontière clandestinement. Mohamed Ousmane a 21 ans, il vient d'Afghanistan.
J'ai essayé 10 fois et à chaque fois ils nous refoulent. Les Hongrois, ils nous battent, ils tabassent tout le monde. Je veux aller en Belgique ou en France. J'ai bien un ami qui vit au Royaume-Uni, mais je n'arrive déjà pas à franchir cette frontière hongroise. Alors comment voulez-vous que j'arrive en Angleterre ?
It is impossible.
Pendant que les hommes finissent leur repas, un chat vient glaner quelques miettes. Certains se sont découragés et sont partis vers la Bosnie. Mais la Hongrie reste le chemin le plus court vers l'Europe du Nord. Alors Mohamed et ses camarades s'obstinent. La frontière hongroise a beau être verrouillée, ils sont persuadés qu'un jour, ils réussiront à passer.
Le reportage de Florence Labruyère du côté serbe. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors on s'active en ce moment à Strasbourg. Il y a eu un autre vote des eurodéputés qui se sont prononcés en faveur de la très sensible réforme du droit d'auteur. Objet donc d'une grosse bataille entre artistes et éditeurs de presse d'un côté, et puis de l'autre, les géants du net, les GAFA, et puis les activistes de la liberté sur Internet. Alors les parlementaires ont donc avalisé une nouvelle version du texte rejeté le 5 juillet. C'est une décision, Eve, qui pourrait bien changer la vie des Européens.
Oui, et si à première vue le sujet paraît complexe, il est en réalité passionnant et mérite que l'on s'y intéresse. Rarement texte européen n'aura suscité autant de débats houleux, de prises de position, de lobbyisme tout genre. Pour les uns, cette directive pourrait sauver la presse, pour les autres, elle pourrait mettre fin à la liberté d'expression de millions d'internautes, ni plus ni moins.
Alors nous allons nous attarder avec vous sur les deux articles les plus incriminés, les plus disputés, mais d'abord vous souhaitiez, je crois, mettre le sujet en perspective grâce à des chiffres.
Oui, car pour comprendre les enjeux du texte, il faut d'abord savoir que la presse se nourrit largement, en France et en Europe, de ressources publicitaires. C'est-à-dire que plus une publication est lue, plus elle attire les investisseurs qui espèrent ainsi toucher un large public. Eh bien, sachez que Google a récolté, par exemple, 67% de la totalité des recettes publicitaires en France en 2015. On parle quand même de plusieurs milliards d'euros. Facebook, 12%. Et enfin, la presse et l'information, 5,8%, toutes publications confondues. C'est plus de 10 fois moins.
Et oui, des revenus aspirés par les GAFA petit à petit ces 20 dernières années.
Grâce notamment à la presse, car les GAFA auxquels les deux entreprises que je viens de mentionner appartiennent, font apparaître des snippets, des visuels tirés des journaux en ligne pour attirer les internautes, avec généralement, vous savez, c'est une ligne de texte, un titre, peut-être une photo. Selon une enquête de la Commission européenne, nous ne serions que 1 sur 2 à vraiment cliquer sur le lien et donc aller sur la publication. Et comme je vous l'ai expliqué, pas de clic, pas de revenus publicitaires. En gros, les GAFA tirent des revenus de ces journaux qui eux-mêmes ne touchent pas un centime. On rémunère le livreur de journaux sans payer le journal lui-même.
Et oui, cette chute historique des revenus pour la presse a les conséquences que l'on connaît désormais.
Licenciement massif, diminution du budget pour les reportages de terrain, des titres de presse qui carrément disparaissent, etc., etc. Ce qui fait même dire à Fabrice Friis, PDG de l'AFP, l'agence France Presse, dans Le Monde aujourd'hui, que l'information honnête et vérifiée est devenu un produit de luxe.
Oui, d'où l'idée, Eve, de la création du droit voisin. Il faut s'expliquer un peu sur ce droit.
Il s'agit du fameux article 11 de la directive. En réalité, le terme est droit voisin du droit d'auteur. Le droit d'auteur rémunère le créateur, il protège les musiciens, les vidéastes, bref, les artistes. Le droit voisin viendrait lui rémunérer ceux qui ne sont pas proprement à l'origine de la création, mais qui l'ont au moins en partie financé, typiquement la publication qui rémunère le journaliste.
Ce texte fait donc le pari de l'interdépendance des GAFA et des titres de presse, un fait que certains observateurs questionnent déjà.
Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, car deux exemples récents, en Espagne d'une part et en Allemagne d'autre part, montrent que si les GAFA décident de ne plus référencer certaines publications pour des histoires de droits d'auteur, celles-ci sont souvent les premières à en souffrir, à souffrir de cette invisibilité. Comme quoi, Catherine, le problème n'est pas simple, on l'avait dit, et on peut craindre que la situation des titres de presse ne soit pas prête à s'améliorer.
Merci Eve. Eve Minot, que l'on retrouve bien évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'est C'est un rêve pour nombre d'employeurs. Aux Pays-Bas, les grèves sont rares, mais surtout de plus en plus difficiles à organiser. Parfois, les entreprises vont jusqu'à saisir la justice pour les faire interdire. Une situation tellement compliquée pour les syndicats que désormais, ils préfèrent organiser de simples actions de protestation ou même, c'est assez étonnant, des mini-grèves d'une dizaine de minutes, Antoine Mouteau.
Faire grève, d'accord, mais la plus courte possible alors. C'est concrètement ce qui s'est passé cet été à l'aéroport international de Schiphol, près d'Amsterdam. Les agents de sécurité ont à plusieurs reprises cessé le travail au point de contrôle des bagages et à chaque fois pour un quart d'heure seulement, juste le temps d'allonger les files d'attente sans pour autant créer de véritables paralysies à l'embarquement. En fait, si cela n'avait tenu qu'à eux, les agents de sécurité auraient fait grève bien plus longtemps. En conflit avec leurs employeurs des sociétés sous-traitantes de l'aéroport, ils demandaient une amélioration de leurs conditions de travail et une hausse des salaires. Mais voilà, ce mouvement social n'était pas du goût de la direction de l'aéroport de Schiphol. Pour elle, la période estivale est le plus mauvais moment pour une grève. Les passagers sont bien plus nombreux que d'habitude et surtout, dit-elle, le risque pour la sécurité est bien plus important. Elle a donc décidé de porter l'affaire en justice dans l'espoir de faire interdire la grève. Finalement, un juge a décidé d'interdire les grèves longues jusqu'au 2 septembre, après la fin des vacances d'été. En revanche, il a autorisé les grévistes à poursuivre leurs actions à la condition qu'elles ne dépassent pas les 15 minutes et ne se répètent pas plus de 5 fois par jour. Rebelote, le 4 septembre dernier, les agents de sécurité ont voulu organiser une grande journée d'action à l'aéroport, se heurtant une nouvelle fois à la direction qui a voulu saisir encore la justice. Finalement, un accord a été trouvé in extremis entre syndicats et employeurs. Enfin, d'autres corps de métier ont désormais pris l'habitude de remplacer les grèves, souvent difficiles à mener, par de simples actions. Début septembre, pour réclamer de meilleures conditions de travail, des policiers se sont brièvement postés devant la gare centrale d'Amsterdam. Sur leur pancarte, on pouvait notamment lire que sans eux, la zone était dangereuse.
Après la légalisation de l'avortement en Irlande en mai dernier, il reste 3 pays en Europe qui restreignent ou interdisent l'IVG. Chypre, qui n'autorise l'IVG qu'en cas de viol ou de risque majeur pour la santé, comme la Pologne d'ailleurs depuis 20 ans. Et puis, il y a Malte, où l'avortement est strictement interdit, quelles que soient les circonstances. Les Maltaises qui avortent risquent même la prison. Pourtant, courageusement, des femmes engagées tentent d'ouvrir le débat sur cette île où le sujet est tabou, mais qui, curieusement, est à la pointe en Europe sur les droits LGBT. C'est le reportage de Laurent Berthaud.
Elles étaient d'accord pour témoigner, anonymement bien sûr, pour raconter comment, il y a quelques années, elles avaient choisi d'enfreindre la loi, l'une en allant avorter en Grande-Bretagne, l'autre en achetant sur Internet une pilule abortive. Mais finalement, le jour même de l'interview, l'une est tombée malade, m'a-t-elle assuré, et l'autre a finalement cessé de répondre au message. Pas surprenant, finalement, dans un pays où l'avortement est assimilé à un crime pur et simple, et où en parler au micro revient à prendre un risque certain. Même chez les politiques les plus en pointe sur les droits des femmes, le sujet n'est abordé qu'avec réticence. Prenez par exemple Michael Brigoglio, sociologue, aujourd'hui élu municipal pour le Nationalist Party. Cet ancien élu écologiste a été en 2011 l'un des initiateurs du référendum qui a conduit à la légalisation du divorce. Mais jamais il ne prendra le risque de faire campagne pour l'IVG.
Les sondages montrent que 90% des Maltais sont opposés à la légalisation de l'avortement. En ce qui concerne le divorce, 50% des Maltais y étaient favorables lors de la campagne. Sur la question des droits LGBT également, Malte a engagé des réformes qui en font un des pays les plus avancés dans ce domaine en Europe. Mais il y avait une demande très forte de la société pour donner des droits aux LGBT, alors que sur l'avortement, rien de tel. Aucun des 4 partis politiques, dont 3 sont au gouvernement, n'y est favorable. Aucun homme politique de Malte, ni moi ni les autres, ne souhaite une modification de la loi.
C'est finalement une association créée en 2013 qui, au printemps dernier, a décidé de briser publiquement un tabou. Women's Rights Foundation, la Fondation pour les droits des femmes, a publié une plateforme de revendications parmi lesquelles figure la dépénalisation de l'avortement. Il s'agit d'abord d'en finir avec une grande hypocrisie, explique sa directrice, l'avocate Lara Dimitrievich.
L'avortement est illégal à Malte, c'est totalement interdit. Si vous êtes pris en train d'avorter, que ce soit avec un médecin ou en prenant une pilule abortive, vous pouvez être condamné à 3 ans de prison. Mais si je vais avorter à l'étranger, en France par exemple, et qu'à mon retour quelqu'un l'apprend, ce n'est pas illégal, mais c'est de la discrimination. Si j'ai de l'argent, je peux aller avorter à l'étranger, sinon c'est impossible. Nous estimons que c'est une violation des droits de l'homme et des droits des femmes.
La Fondation estime que chaque année, ce sont 300 à 400 Maltaises qui vont avorter à l'étranger, surtout au Royaume-Uni ou en Sicile, à quelques heures de bateau, sans compter celles qui prennent une pilule abortive achetée sur Internet. Un secret lourd à porter et un tabou qui fausse les enquêtes d'opinion, comme ce fameux sondage sur l'avortement.
Dans ce sondage, ce sont même 97% des personnes qui se sont dites opposées à l'avortement, même quand la vie de la mère est en jeu. Mais des personnes qui avaient répondu nous ont avoué « J'avais trop peur de dire que j'étais pour, parce que s'ils m'ont appelé, ils savent qui je suis et je peux être prise pour cible. » Ces gens ont peur de perdre leur travail, que leurs enfants souffrent ou que leur propre famille les rejette. Nous-mêmes, quand nous avons publié notre plateforme, nous avons reçu des menaces de mort. Ce pourcentage ne reflète pas la réalité.
Briser le tabou, desserrer l'étau de la peur, en finir avec une éducation culpabilisante, voilà les priorités pour la Fondation des droits des femmes.
Dans les cours d'éducation sexuelle donnés à l'école, on recommande simplement l'abstinence aux ados. Rien sur la contraception, c'est tabou. Si on parle des préservatifs avec les filles, elles font... Non, pas question que j'aille en acheter, j'aurais trop honte. Elles se sentent vraiment gênées d'en parler. À l'école, on leur montre aussi une vidéo dans laquelle on voit un fœtus disséqué. À l'âge de 12 ou 13 ans, on est très impressionnable. À Malte, il y a toujours des associations pro-life qui vont dans les établissements scolaires pour dispenser des cours d'éducation sexuelle, mais avec leur point de vue. Malte est aussi le pays qui compte un taux d'adolescentes enceintes très élevé, même des ados de 12 ans.
Aucun signe d'ouverture sur l'IVG n'est pourtant visible à Malte. Malgré tout, les femmes commencent à en débattre entre elles de façon anonyme sur le groupe Facebook Women for Women, monté il y a 2 ans par une autre féministe, Francesca Fenech Conti. Des militantes qui veulent croire que ce murmure souterrain finira bien par irriguer le débat public.
Transformer un vieux supermarché de Bruxelles en véritable galerie d'art, c'est le pari réussi d'artistes du street art venus du monde entier. 60 grands noms signent des œuvres que le grand public peut voir, Lakshmi Lotha.
Les graffeurs ont utilisé tout l'espace à leur disposition, du sol au plafond, dans tous les rayons et jusqu'au parking de l'ancien supermarché. Des pots de peinture, des pinceaux, des bombes de couleurs sont encore sur le sol. Les artistes sont en plein travail. C'est une galerie en évolution perpétuelle, car le street art est éphémère par définition.
On est habitué à ce que les choses disparaissent un jour. Ça me dérange pas plus que ça.
Scotch bleu sur les murs, règle à la main, Zdei termine son installation. Il arrive de Paris, les lieux sont exceptionnels pour lui. Le graffeur a aussi rencontré l'une de ses idoles.
C'est génial, c'est marrant, parce que pour le coup, c'est un graffeur que... Quand j'avais 14 ans, quand j'ai commencé à peindre, c'est un type que j'imaginais jamais rencontrer, quoi.
L'exposition s'intitule « Les légendes de New York ». Parmi les graffeurs présents dans cet atelier original, T-Kid, venu du Bronx, c'est justement l'une des légendes du street art. Il a commencé dans les années 70 en peignant sur les trains. On peut aussi admirer les grands classiques de la peinture flamande, revisités par l'italien Andrea Mattoni, Van Eyck, Bruegel, Rubens, réalisés à la bombe. L'ancien supermarché sera peut-être transformé en logement, mais d'ici là, il reste le nouvel atelier du street art.
Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro d'Accent d'Europe. À la réalisation, bien sûr, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous suivre sur RFI.fr et puis sur notre page Facebook.